Oui, Daniel Mermet, bonjour. C'est Daniel D'Antoni. J'ai l'impression que vous oubliez quand même une chose. La France est un pays de race blanche, de religion chrétienne. C'est donc normal que cette religion soit privilégiée quand bien même tout le monde ne soit pas pratiquant. Moi, c'est mon point de vue et ce n'est pas normal ce que vous faites. Le métissage, non.
Ich bin Strasbourger. Alsacien par maman, Kabyle par papa, protestant de baptême. Baptême célébré par le pasteur Trautmann. Et oui, le grand-père de Catherine Trautmann. Non content d'être Alsacien Kabyle, je suis aussi français. Comme mes frères. Mes sœurs sont allemandes. Une partie de ma famille réside en Algérie. Une autre au Canada. Une autre en Angleterre. Et ce n'est pas un secret, mes cousins germains sont alsaco-hongrois. En cherchant bien sous les couettes des plumards, des maîtresses et amants dans les placards, il y a bien un juif ou un chinois, ou les deux, va savoir.
Il faut changer le monde. On va changer le monde est une illusion. Vouloir changer le monde, c'est tout simplement vouloir, sans le savoir, changer d'illusion. Mais le monde est une illusion globale, qui totalise toutes les illusions. Changer le monde, changer d'illusion du monde, c'est vouloir recréer l'illusion globale du monde pour se la réapproprier en lui ajoutant une nouvelle, mais déjà semblable, illusion. Car le monde est l'illusion suprême, l'alpha et l'oméga de toutes les illusions.
Ouais, Mermé, trop cool. T'as zappé les fêtes de Noël, toi. Bon, allez, bon voyage. Ici, c'est la misère, Noël, jour de l'an. Ciao.
Bon, là-bas, si j'y suis, j'ai un scoop. Je sais qui est Père Noël. Eh oui, le Père Noël, c'est Daniel Mermet. Tout ça pour dire que je suis en train de lire une histoire populaire des États-Unis de Warzin et que ce bouquin est absolument génial et que j'invite tout le monde à le lire. Et c'est vraiment, vraiment très fort. Non seulement c'est facile à lire, mais en plus c'est hyper intéressant. Il y a des choses très dures dedans. Mais vraiment, c'est bravo de nous avoir fait une émission là-dessus et nous avoir fait de la pub pour ce bouquin. Je suis super content, c'est un beau cadeau de Noël que je me suis offert. Voilà, et ben, joyeux Noël à toute l'équipe, hein. Puis bravo pour l'émission d'hier aussi, c'était super. Les chrétiens aux États-Unis, là, c'est époustouflant. Bon, à plus tard, ciao.
Oui, bonjour à toute l'équipe. J'ai beaucoup aimé l'avant-dernier conte et l'antépénultième. Hein, donc, pas le dernier sur les géants, mais les deux qui ont précédé. L'un utilisant les lettres de l'alphabet, et puis le précédent aussi. J'aimerais beaucoup me procurer ces contes s'ils sont édités. Voilà, merci, salut.
Oui, libre penseur, une question revient souvent à mon esprit. Y a-t-il un lieu sur la planète où Dieu est absent? Un lieu sans croix, sans voile, sans église, sans mosquée, sans synagogue, sans totem, sans tabou, sans sorcière, sans chaman? Daniel Mermet est actuellement en Inde. À côté de Pondichéry, oui, je sais, c'est de l'autre côté. Lui, il est à Bombay actuellement. Mais bon, avec la grosse moto, c'est pas très loin. À côté de Pondichéry, il y a une cité unique au monde, Auroville, créée par Sri Aurobindo. Allez, Daniel, après Bagdad, Florida, là-bas, si j'y suis, à Auroville, in India, non? C'est Pierre en Ardèche. Allez, au revoir.
Alors là, on est justement exactement de l'autre côté de l'Inde. On est à l'ouest, on est dans le Gujarat. On est dans un tout petit village qui s'appelle Sarang. C'est pas loin de Baroda. Et là, on passe une soirée mémorable qu'on vivra ensemble dans les jours qui viennent avec les Dalits. J'allais dire communauté, mais je peux pas dire comme ça. Les Dalits, c'est-à-dire les intouchables qui vivent dans un village à l'écart du village et qui nous font une fête. nous font une fête, nous font un concert. C'est une nuit absolument extraordinaire, magique, où ça danse, où ça vibre, où ça chante. Les femmes sont toutes enveloppées dans leur sari sur le côté, regardent les vieux, les buffles qui roupillent derrière, tout à fait indifférents. Et puis devant nous, dans la pénombre, un peu éclairée par une lampe à pétrole, il y a un temple avec une divinité, celle que les Dalits se sont choisis. Je dis choisis parce que à l'intérieur du monde des intouchables, on a reconstitué des castes. Eh oui, eh oui. Et on parlera longuement de ces castes et de l'Inde dans les prochains jours, en même temps que se déroulera à Bombay le Forum Social Mondial. Ça, c'est la semaine prochaine. Pour l'instant, ben, d'abord vos messages, dont je vous remercie. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37. En notre absence, il y a eu beaucoup de messages. On en passera un certain nombre dans les jours qui viennent. Beaucoup de messages au sujet des comptes que nous avons diffusé le 24 décembre. Alors, je vous précise que ce sont des comptes qui ne sont pas édités pour l'instant. C'est des comptes que j'ai écrits il y a déjà pas mal d'années et qu'on a mis en forme pour ce jour de Noël, mais qui ne sont pas diffusés. Voilà. Ils sont pas édités. Voilà. Je dis ça dans l'espoir que de pas être obligé de répondre à tous les mails que vous nous envoyez pour demander ces comptes. Et puis je rappelle aussi le bouquin de Howard Dean, effectivement un livre formidable qui s'appelle Histoire populaire de l'Amérique aux éditions Agon. Alors aujourd'hui et toute la semaine, les best-of des reporters de là-bas, si j'y suis. Et aujourd'hui, c'est avec Dila Tebi qu'on va se retrouver, où ça, à la Courneuve, près de Paris. J'avais dit à Dila que moi, je suis né pas loin de la Courneuve et que quand j'étais môme, au début des années 50, fin 50, aller à Paris, alors que je suis né à 7 km de Paris, c'était toute une affaire. Paris nous semblait plus loin que il ne semble à certains étrangers. Et Dila m'a dit, mais tu sais, ça, c'est la même chose, ça continue avec des gens que je connais à la Courneuve. Chiche. Et voilà le reportage d'aujourd'hui, le reportage de Dila avec les 4000 de la Courneuve regardant Paris.
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vous l'êtes. Alors?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard.
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Président!
Salut, c'est Daniel Mermet avec Dila Tebi, là-bas, si j'y suis, Paris, vue de banlieue.
Flight number 2, arriving from New York.
Le jardin. Des milliers et des milliers d'années.
Des milliers, des milliers d'années.
Ne saurait suffire pour dire la petite seconde d'éternité.
Petite seconde d'éternité.
Tu vas embrasser.
Tu m'as embrassé.
Je t'ai embrassé. Un matin.
Je t'ai embrassé.
Dans la lumière de l'hiver.
Un matin, dans la lumière.
Au parc Montsouris, à Paris.
Au parc
à Paris,
Montsouris.
Sur la terre. La terre qui est un astre.
Sur la terre. La terre qui est un astre.
Ventruche, Paname, Paris. Paris aujourd'hui a perdu ses mystères de Paris. Le secret, le stupre, la perdition, et c'est insolite qui faisait vagabonder des nuits entières Doisneau et Prévert et Léopold Fargue et Mercier et Rétif de la Bretonne et Breton, André Breton, sur les pas de Nadja, de la promenade de Vénus à l'hôtel des grands hommes. Rappela-t-il le fantasme de Paris aseptisé, la ville est une étrange dame dont le cœur a le goût du drame, disait jadis une chanson. Le café crème n'a plus le goût que tu aimes, disait une autre. Paris a perdu ses mystères de Paris. Et depuis quand? Bon, chacun porte en lui la date de son désenchantement, comme les vieux amants qui se souviennent du moment où... Moi, c'est les Halles, quand les Halles ont disparu. Et je me demande toujours quel fut le crétin, le raffarin de l'époque qui commit ce crime capital d'arracher le ventre de Paname, la totale, le cul, la boustifaille et les menteurs formidables. Et la nuit, surtout la nuit. Alors pleurons des rivières sur le bon vieux temps des mystères de Paris. Paris n'est plus le pôle, ni cette épaule, le film d'Arletty regardant Paris et disant que Paris est tout petit pour des gens qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Plus guère de chansons aujourd'hui, fini les célébrations, les petits bals perdus, les ponts, ces ponts où Louis Aragon voyait la promesse des bagues. Paris, disait-il, plus déchirant qu'un cri de vitrier. Aragon emporté, exalté, disant « Arrachez-moi le cœur et vous verrez Paris ». N'empêche qu'il en reste encore du désir dans les regards pour cette ville. Pour cette ville et pour ses habitants et pour ses ruelles et pour ses enchantements. Il en reste encore. Et lorsque j'étais petit, moi qui suis né en banlieue de Paris, à 7 km exactement, il n'y a pas encore un monument, mais ça ne saurait tarder. Eh bien, Paris, pour nous, c'était tout. Bien plus que pour vous, amis provinciaux. Beaucoup plus que pour vous, amis des campagnes, paysans qui aviez des terres, provinciaux qui avaient des villes. Pour nous, habitants des banlieues, de ces banlieues-là en tout cas, banlieues, non-lieux, banlieues de relégation, Paris, c'était tout. C'était la conquête, tout comme il y avait depuis tout temps. Il y a eu un bourg et des faubourgs, il y a eu autour de Paris, eh bien, au-delà des fortifs, au-delà du périphérique, pour reprendre le mot de Rizvani, des gens qui attendaient d'y entrer, des Rastignacs qui s'ignoraient et qui, tel Simone d'ailleurs qu'on vient d'entendre parler avec Prévert, qui s'ignoraient et qui rêvaient d'un jour entrer dans cette ville mystérieuse, cette ville possible, cette ville des rencontres. La ville, c'est le possible. Et Paris restait quand même du possible. En tout cas, dans les regards de celle qu'on va entendre aujourd'hui et que Dila Tebi est allée voir. Je racontais ça un jour à Dila. Je lui disais, voilà, quand j'étais môme, Paris, c'était Paris. Et bien, il me dit, tu sais, moi, je connais des gens à la Courneuve. Dans les 4000, vous savez, cette célébrissime cité des 4000, des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Paris. Et des gens qui peuvent raconter la première fois où ils sont venus à Paris. Alors pour une fois, c'est pas Paris qui regarde du haut de ses certitudes ses banlieues, c'est ses banlieues qui regardent Paris. Et à travers ces regards, bien sûr, comme toujours, eh bien, c'est des gens qui vont dire qui ils sont, qui vont dire leur intégration, qui vont dire ce qu'elle, je dis elle parce que c'est presque exclusivement, je crois à peu près exclusivement des femmes qui vont parler et qui vont nous dire ce Paris, leur Paris, aujourd'hui.
Tu vois aussi, j'ai une belle vue, c'est la 86. Mais bon, on voit Paris. Paris, c'était la liberté, c'était la mixité, c'était sortir de la banlieue où la femme, ben, c'était un peu pour elle une prison. Je me disais, ben, à Paris, le beurre, ce sera pas sa prison, Paris.
يبهز أبو جيت الباري باغي باغي جيت الباري تبغي تحوس تبغي تسكر تبغي تسلم تبغي تعنق تبغي حبيبها يب تبغي تحشق يب جيت الباري باغي باغي يب جيت الباري يب جيت تحوس يا في بلا باغي يا والمريولا يا والكريولا يا وتبغي اللوقو هي هي
décrire un petit peu, je suis au 13e étage dans une cité les 4000. Je vois Paris devant moi.
Même le RER là, qui va à Paris là.
Ouais, il va à Gare du Nord. Et tu vois aussi, j'ai une belle vue. C'est la 86. Mais bon, on voit Paris, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, bien entendu. Moi, j'ai toujours aimé Paris, j'y ai vécu de toute façon, bon, dans la banlieue, mais quand même, mes parents m'emmenaient énormément à Paris.
Alors, justement, la première fois que tu t'es rendue à Paris?
Tu vois, j'habitais dans ce grand immeuble.
Celui qui est en face de nous.
Qui est en face de nous, avec du linge un peu partout. Ouais. Hein. Et avec mon père, on est allé à Paris. Alors, bras dessus, bras dessous, mon père me donnant la main, je prenais le bus. On a fait... toute l'allée, un petit quart d'heure hein, pour aller jusqu'au bus à pied hein, et la découverte de Paris avec lui. Alors, mon père était pour qu'une fille reste une fille, très coquette. Et les souvenirs, c'était les petites soquettes hein, et les chaussures vernis noires. Ça, c'est avec la petite robe, les petites couettes, parce que j'avais les cheveux longs à l'époque. Ça, c'était, ça, c'est mon image d'enfance. Et avec les petites chaussettes à dentelle, mon cher ami, hein, attention.
Voilà.
Mon père était quelqu'un de très fier. Pour ça, c'était.
Ton père, c'est celui qu'on voit dans ton appartement, là, un grand portrait.
Ah ouais, ouais, ça, c'est.
Il est en uniforme.
Oui, parce que mon père était caïd, tu vois, en Algérie. Et en Algérie, c'était l'équivalent de préfet. Tu vois bien l'image, hein. Ouais. C'était quelqu'un de tirer toujours à quatre épingles. Et c'était ma fierté, quoi. Il y a cette image qui me revient et c'est quelque chose d'inoubliable. Mon père, toujours en dessous de la Tour Eiffel avec moi. Je suis blottie avec lui et cette peur, cette force, la première sensation qu'il fallait que je fasse et la première personne, bah heureusement que c'était mon père. Et c'est vrai qu'il y a eu ce réconfort venant de sa part, comme je fais à l'instant avec mon fils. Hop là.
Allô, papa.
Pour moi, c'est la plus belle image. Un grand monument et à côté de moi, un grand homme, tu t'imagines? C'est ma première sensation de Paris. Et j'en garderai un souvenir extraordinaire.
Paris, ville lumière, Paris, ville de perdition. Combien de générations ont rêvé de Paris, ont approché Paris, se sont perdus dans les rues de Paris. La première fois à Paris, on est quand même nombreux à se souvenir encore de cette première fois. Et là, avec Dila, eh ben, on a choisi ceux qui en sont tout près, la Courneuve. Vous savez bien que c'est très très près de Paris, je sais pas combien de kilomètres, 3-4 peut-être. Et voilà, c'est les habitantes, de certaines habitantes de la cité des 4000 à la Courneuve que Dila a rencontré et qui nous racontent leur première fois à Paris, la première fois que elles ont vu Paris, ce que ça représentait pour elles. Souvenez-vous la chanson de Montand, les grands boulevards, hein, je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën, je peux pas me payer les distractions tous les jours de la semaine, c'est ça, hein, oui. Et alors les grands boulevards, et ben c'était un spectacle en soi. Ça c'était plutôt les provinciaux, les gens de province de loin, de d'origine paysanne qui s'installait à Paris dans des hôtels meublés la plupart du temps, la petite piole qui donne sur les toits, et on se baladait dans Paris. Et il y a comme ça des vagues, des marées qui sont venues constituer les fantasmes de Paris, parce que c'est évidemment dans ses regards, dans ses convoitises, que la ville existe, et dans ces regards habités de désir que une ville comme la nôtre, une capitale comme la nôtre, c'est faite. Ville lumière, ville de perdition, Paris.
Vous vous rappelez de la première fois où vous avez été à Paris?
La première fois quand je suis venue, j'ai pris l'avion de Constantine vers Marseille. On est descendu à Marseille, à Marignane.
Avec votre mari.
Ah oui. Et puis quand on est venu ici, par train, on a pris le train. Et quand on est arrivé à Paris, vers la gare de Lyon, c'était beau, c'était magnifique. Quand j'ai vu ça, les gens qui vivaient, j'ai visité un peu partout. Et après, avec lui, on est parti dans un chic restaurant. On a pris un café à drugstore la nuit, je me rappelle très bien. On a passé une nuit dans un hôtel. C'était vraiment magnifique. Puis c'était.
Vous aviez quel âge ?
J'étais très très jeune. J'étais jeune, je suis venue un peu jeune ici. Très jeune. J'étais très très jeune quand je suis venue ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. Après, une fois quand j'ai visité Paris, j'ai vu les gens, comment ils vivaient, les femmes, comment elles étaient habillées. Pas dévergondées, mais quand même, c'était chic de voir des femmes comme ça. Des gens, ils étaient simples, mais ils étaient bien habillés. Les femmes, elles étaient libres. Elles avaient beaucoup de choses. C'est-à-dire, elles avaient beaucoup plus de veine que la femme algérienne, parce que nous, on vivait toujours sous la coupe du mari ou sous la coupe de la famille. Alors c'était là que ça m'a tapé. Je dis, ah là là, si je pouvais rester à Paris. Et je suis restée à Paris. Je pouvais pas partir de Paris. Paris, elle a une histoire. Hein. C'est une belle histoire, Paris. Attention. Hein. Cette histoire-là, elle est là. On la voit. C'est réel. Comme l'Arc de Triomphe, comme le château de Versailles, comme la Tour Eiffel aussi. Elle a une histoire aussi. Il y a une bonne histoire aussi. Et ça, ça fait beaucoup plus de. C'est une ressource pour les Français. Ils sont, comment vous expliquer, les Français, ils ont un peu de fierté pour ça. Et ça, c'est bien. C'est une bonne histoire. Ils ont la tête haute. Il faut qu'ils soient, hautains. Ils vous disent, voilà, on a une belle histoire. Il y a telle chose qui a été, fait et créée par telle personne. Vraiment, c'est une fierté pour eux. Avec ses cafés, avec ses restaurants, avec, c'est chic, c'est magnifique. Il y a des gens qui, je préfère mieux Paris, que, par exemple, partir dans un autre pays. C'est très beau Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les gens qui viennent à Paris, ils viennent une fois et ils retournent.
Moi, ce qui m'avait surtout surpris, c'est de voir le Paris cosmopolite aussi. Il y a au moins une ville où l'antiracisme a gagné, quoi, où il y a enfin, et de voir des gens s'embrasser, des couples mixtes. J'ai adoré Paris pour ça, parce que je me disais, on a gagné, quoi.
J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux, j'ai compris que dans la ville de pierre, où l'on se sent étranger, il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas. De Paris à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Au petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là. Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Toi Paris, je suis bien dans tes bras.
Dites-moi au moins quand je vous reverrai,
Bientôt peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, pariez grand, vous avez.
Pariez tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Sait-on jamais avec le hasard? Les plus beaux, la plus belle phrase du cinéma par la plus grande Arletty, sait-on jamais avec le hasard. Et c'est ça la ville c'est ça, c'est qu'on sait jamais, il y a le hasard. Et voilà pourquoi, eh bien, ces femmes de la Courneuve racontent leur pari à elles, leur premier pas dans ce pari. Dila Tebi, notre copain, a choisi des beurettes, vous avez compris, des femmes d'origine du Maghreb, bien souvent d'Algérie, et qui nous raconte leur Paris, la première fois qu'elles ont vu Paris, elles qui habitent aujourd'hui à la Courneuve, et ben voilà, oui, c'était la libération, on osait, parce que bah il y a le carcan de la famille, il y a le carcan des bons hommes, il y a le carcan du papa, il y a le carcan des frangins, et tout d'un coup ben on est une femme, et puis voilà, on est un peu la jolie môme, il y a des regards qui vous suivent, qui vous accompagnent, on découvre un autre monde, on découvre ben que sait-on jamais avec le hasard.
Pour moi, ma première fois réellement, je pense que c'est la première fois où je suis venue, c'est la découverte de Paris en manifestation. Ouais. C'était, je pense, en 77, je crois. Ouais, j'avais à peu près 18 ans. La première fois que je suis venue, pour moi, c'était vraiment la découverte de Paris. Bah ouais, la rebelle, la rouge, je suis venue pour manifester. Je me rappelle que c'était à l'époque où il y avait des gros licenciements dans le Nord. J'étais à la jeunesse communiste et... on était monté, on avait beaucoup monté, manifesté à Paris contre la casse de la sidérurgie dans le Nord, parce que c'était notre combat. C'était déjà fini les puits de mine et on voulait pas qu'on recasse toutes les grandes usines comme Usinor à Dunkerque et à Valenciennes. Paris à moi, ça a été ça. Ça a été le Paris de la révolte et tout. Moi, je connaissais pas du tout Paris. Moi, je suis pas rentrée avec le car ce soir-là et d'abord, c'était la première fois où je découchais. On avait envie de connaître autre chose que nos frères, quoi. C'était peut-être aussi ça, l'attrait de Paris. Moi, c'est pas méchant contre mes frères, mais ni leurs copains. Mais bon, de connaître aussi des garçons avec qui on pouvait discuter d'autre chose. Et voilà, le soir, c'était Paris by night. un peu coco, un peu.
Ouais, c'est-à-dire.
Bah, on s'est baladé, on a beaucoup marché à pied. Et
Paris by night quand t'as la jeunesse communiste.
On marche beaucoup, c'était super. On était fauchés quand même, donc on avait beaucoup ramassé nos sous et on a beaucoup marché. On a été beaucoup au Quartier Latin. Ça, je me rappelle. À Quartier Latin, à l'époque, c'était pas les briocheries et les croissanteries d'aujourd'hui. C'était vraiment le Quartier Latin. Moi, c'est le Quartier Latin tel que je me rappelle, c'était surtout ça. Moi, c'est ce souvenir-là que j'ai, quoi. Beaucoup plus de librairies, plus de trucs. Peut-être parce qu'il y avait aussi plus d'Arabes que je voyais pas d'habitude dans ma ville. Enfin, des Arabes un peu intello, des Arabes avec qui on avait plus envie de discuter. Peut-être, il y avait peut-être aussi ça. Je vais encore au Quartier Latin, ouais. Pour la nostalgie. Il y a encore quelques boutiques que j'aime bien. Mes boutiques de vêtements, tout ça, bon, parce que j'ai un... Voilà, les boutiques indiennes et tout, parce que je suis, moi, baba cool, hein.
Ouais, ouais. Donc, la tenue.
Voilà, donc je vais m'habiller là-bas, tout ça. Moi, ce qui m'avait surtout surpris, c'est de voir bah, le Paris cosmopolite aussi. Parce que moi, je venais d'une cité minière, où par exemple, il n'y avait pas de blacks. Je voyais beaucoup, beaucoup de blacks, et je voyais surtout des couples mixtes. Que moi je connaissais pas. À la limite, le peu de couples mixtes que moi je voyais, c'était polonais-arabe, parce que dans notre cité, c'est ce qu'il y avait. Mais j'avais jamais vu, par exemple, des couples blacks français. Et ça m'avait agréablement surpris, parce que moi j'étais très très pro Malcolm X et Angela Davis. Et ça m'avait beaucoup réconforté. Et j'ai adoré Paris pour ça, quoi. J'ai adoré parce que je me suis dit, il y a au moins une ville où l'antiracisme a gagné, quoi, où il y a enfin, et de voir des gens s'embrasser, des couples s'embrasser. J'ai adoré Paris pour ça, parce que je me disais, on a gagné, quoi.
Mais alors justement, est-ce que tu t'es senti à côté de la plaque, quoi, quand tu t'es retrouvé à Paris et que t'as vu que c'était complètement différent et puis que les gens n'étaient pas forcément malheureux?
Bien sûr, je me suis sentie à côté de la plaque. Ben, on se sent complètement arriéré devant les filles, notamment devant les Françaises et tout. Puis on n'ose pas tout avouer devant, du coup, même devant les filles, les Françaises qui étaient avec nous dans le groupe et tout. On se sent vraiment arriéré par rapport à elles. Parce que après, je doutais que même mes copines qui étaient venues avec moi du Nord, Elle devait être comme ces filles-là, comme les Parisiennes. Elle devait être évoluée, elle devait être libérée comme celle que je voyais et tout. Et là, du coup, moi, ça me mettait complètement en porte-à-faux avec mes copines. Et je me disais, oh là là, le retard que j'ai et tout, bien sûr. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était aussi beaucoup de bluff, hein, parce que ce ne sont que des apparences. Hein, parce que la liberté, malheureusement, c'est pas ça. Ça fait 25 ans que je vis ici et la liberté et des Françaises et des Parisiennes, j'en suis revenue, quoi. En tout cas.
Comment ça? C'est quoi cette idée?
La liberté, c'est pas boire un whisky dans un café, ni fumer une cigarette à Paris, dans un café à Paris. Je pense que la liberté, c'est autre chose, quoi.
Et pourtant, c'est ce qui t'avait marqué, quoi.
Voilà. Bien sûr. C'est ce qui marque. Bah oui. Une femme attablée à une terrasse de café à Paris à 3h du matin, ça fait femme libre. Et pourtant, ça ne l'est pas. Mais quand on a 17, 18 ans, c'est un marqueur de liberté, quand même. C'est vrai.
La première fois, je suis partie avec mes parents. Le soir, on est parti à côté du Champs-Élysées. On a vu la Tour Eiffel. On est passé à côté de la Tour Eiffel. Mon père, il nous a regardé où la princesse, elle était morte. Ensuite, on est parti vers un endroit où il y avait une bande de voyous. Il y avait des lumières. Ils prenaient des cigarettes, de la bière. Et moi, j'ai dit à mon père, viens, on part à la maison. Après, on est parti.
Il y avait qui dans la voiture?
Ma sœur, ma petite sœur, mon frère, moi, ma mère, mon père et mon chat.
Vous avez pris votre chat avec vous?
Oui.
Tu te rappelles comment tu t'es habillée? T'as vu tes beaux habits?
Avec une robe, avec un sac et mon manteau. J'ai mis du parfum. Mon chat, je lui ai mis un petit truc bleu parce que c'est un garçon. Et mon frère, il a mis un costume. Ma grande sœur, elle a mis une robe arabe. Ma mère, elle a mis une djellaba bleue.
Et ton papa, il est habillé comment?
Avec une chemise et un pantalon noir.
Qu'est-ce que t'en penses de cette ville?
Le Champs-Élysées, c'est bien, la Tour Eiffel, mais quand on est passé vers à côté des voyous, j'ai dit, ça doit être pas bien.
Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini. Paris, c'est décidé, je me barre.
Quitter Paris, ça se fait, dit-on, de plus en plus. Ce serait une tendance, si on en croit certaines études. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On en est encore dans l'enchantement, dans la surprise, dans la découverte et dans la ville émancipatrice. La ville possible, sait-on jamais avec le hasard. Vu Paris, vu à travers les regards de beurettes, de femmes d'origine maghrébine, qui vivent à la Courneuve, dans la cité, la fameuse cité des 4000. Certaines ont mis des années, nous ont-elles confié à Dina Tebi, avant de venir à Paris. Pendant des années, elles ont habité là, et puis un beau jour, enfin, il y a eu cette première fois à Paris, et c'est ce qu'elles nous racontent aujourd'hui.
Je me souviendrai ma première sortie à Paris, j'avais 15 ans. Alors on est parti d'ici, après 2h de l'après-midi, on a pris le RER, on est descendu à Saint-Michel et on a été tout d'abord au Panthéon. Ah, le Panthéon, pour moi, c'était comme nos profs de français nous le racontaient, hein, les grands écrivains, les grandes personnalités françaises qui étaient exhumées. Et la première chose que j'ai vue, c'est la tombe de Victor Hugo. Et Victor Hugo, c'était quand même l'écrivain préféré de ma prof de français en 3e. Et ses bouquins, ben, je les ai adorés. Donc, c'était quelque chose de rentrer dans ce monument-là. Puis après, on a été manger une glace dans un café. Les cafés ici en banlieue, il y a que les hommes qui y rentrent. Et c'est tout. On passait devant les cafés, on courait, on avait peur. Et là, c'était être sur la terrasse, manger une glace. C'est vrai que les prix sont un peu plus chers qu'ici, mais C'est vraiment la liberté, manger une glace dans une terrasse, boire un café, et c'était assez magique. C'était quand même le cafetier qui avait sa serviette sur son bras, son petit plateau. Qu'est-ce que je vous sers? T'avais un menu devant les yeux. C'était une journée de liberté. Et moi, c'est ça que j'aimerais qu'on m'explique. De quel droit un homme, il pourrait sortir et la femme ne pourrait pas le faire? En quoi? C'est vrai, il y a une différence de sexe. Et alors? Et ça, moi, je l'accepterai jamais. Moi, je me laisserai pas faire. Et même si aujourd'hui c'est dur, je dis que je veux me cacher ou quoi que ce soit, je pense que à partir du moment où la liberté, je l'ai acquise dans ma tête, où je me dis que quand même, je fais ce que je veux, même si je le fais un peu en cachette.
Qu'est-ce que tu fais en cachette?
Sortir avec des garçons en cachette, c'est banni, c'est banni. La fille n'a pas le droit à l'amour. La fille, même pas l'amour. La fille n'a pas le droit à avoir ne serait-ce qu'une relation. Non mais attends, toi avec un garçon, mais ça va pas ou quoi? Le premier homme de ta vie sera ton mari, un point c'est tout.
C'est comme ça que tu le prends toi?
Bien sûr que non, bien sûr que non. Moi je le prends pas comme ça. Hein. J'ai déjà eu des garçons dans ma vie, et ça se fera encore.
Et en cachette toujours?
En cachette toujours malheureusement, ouais.
T'étais habillée comment? T'avais une tenue spéciale? Est-ce que pour toi c'était le... Oh, attends, je vais à Paris quoi, c'est...
Oui, c'était... Je vais à Paris, mais en même temps, j'avais pas une tenue spéciale. Non, j'étais en jean, j'étais en basket, et je crois même que j'avais une casquette, donc... donc c'était pas spécial, non.
La banlieusarde, le cliché.
Oui, le cliché, la banlieusarde, mais en même temps, non, ça faisait pas... Parce que c'était... C'était peut-être la casquette qui était un peu hors... Ça collait pas, mais sinon, non, ça faisait pas très bon genre. Mais c'est vrai qu'on était assez impressionnés, donc on essayait de parler fort, de se montrer, de dire qu'on était là, qu'on était même si on était de la
banlieue. C'est comme ça que tu réagissais, toi?
C'est, je disais, ouais, mais attends, viens là. On était sur le bord de la scène, on prenait des photos. Alors, on prenait des poses de grandeur quand même. On était quand même des nanas, mais on voulait montrer que on était sur Paris, qu'on faisait les touristes et qu'on faisait des photos. Et c'était, allez, prends-moi comme ci, comme ça, et c'était... Non, c'était bien.
T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou fonce l'affaire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule et à la rue qu'est ma boule, joli môme.
En fait, j'étais pas aussi bien dans ma peau parce que les gens nous regardaient quand même. Faut dire la vérité, on débarquait avec nos baskets, nos casquettes, nos jeans et on était des blacks, des beurs. Moi, je suis beurre et on arrivait là et les gens nous regardaient quand même. Et dans le café, on était, je crois, les seuls blacks ou les beurs. Donc, question mixité, c'était pas non plus ça. Peut-être qu'on n'a pas choisi en même temps le quartier où on pouvait trouver le plus de blacks ou de beurs. On était dans le cinquième, mais quand même, c'est vrai que ça m'avait un peu titillé et un peu fait mal au cœur. Ouais.
Comment ça, mal au cœur?
Ben, je me disais, parce que pour moi, Paris, c'était la liberté, c'était la mixité, c'était sortir de la banlieue où la femme, ben, c'était un peu pour elle une prison. Je me disais, ben, à Paris, le beurre, ça sera pas sa prison, Paris. Et en fin de compte, les stéréotypes existent et à Paris également, même si pour moi, c'était question de liberté, quoi. Et Paris, ben, c'est pour les privilégiés quand même. Mon père est ouvrier, il gagne 7500 francs par mois. Paris, c'est le prix d'un loyer à Paris. Mon père pourrait, on est 9 enfants, mon père pourrait jamais payer un loyer à 5 600 francs, 5 000 voire 6 000 francs, et pouvoir nous éduquer, nous acheter à bouffer, payer les factures, c'est inimaginable. Donc ça reste quand même, c'est des gens qui gagnent bien leur vie, qui ont pas beaucoup d'enfants, et voilà. Et puis ma mère à Paris, moi je le consomme et les gens ne pourraient pas le concevoir dans la mesure où ma mère ne parle très peu français. On se débrouille avec les mots qu'on connaît, hein. Mais n'écrit pas le français, ne lit pas. Donc, quand on va chez le médecin, c'est moi qui vais avec elle. Et puis les médecins maintenant des centres de santé ont l'habitude des gens de banlieue. Mais à Paris, un médecin privé, j'ai du mal à concevoir qu'il pourrait dialoguer avec ma mère qui parle pas français.
Dedans, dehors, inclus, exclu, Paris et autour, la banlieue, pas si facile, on le voit bien, le clivage entre Paris et autour de Paris. Comment ces jeunes femmes, pas toutes jeunes d'ailleurs, qui habitent la cité des 4000 à la Courneuve, donc tout près de Paris, ont vu Paris la première fois, comment elles se souviennent de cette découverte, cette conquête de ces possibles qu'une ville constitue. Et puis c'est pas facile parce que c'est la ville du pouvoir, c'est la ville de la bourgeoisie, c'est la ville où le peuple est parti ou en voie de disparition. C'est vrai que c'est une ville qui s'est beaucoup embourgeoisée au cours des dernières décennies, mais le charme opère encore, pas toujours cependant.
À Paris, moi, je suis rentrée en 80.
Rentrée en 80 d'où ?
D'Alger. Je suis venue à Paris. J'avais que ma fille avec moi. J'avais mon fils qui est resté en Algérie. Non, j'ai souffert au début. Hein. J'ai un peu cavalé, comme on dit, pour commencer ma vie à zéro. Dès que je suis descendue, j'avais personne qui est venu m'accueillir. Je suis venue en taxi. Je commençais à lui poser des questions. Et il m'a répondu, il m'a donné tous les détails. Comment prendre le métro, comment prendre les taxis, comment il faut... Et comment même téléphoner pour avoir un taxi qui vient à domicile. Je connaissais pas tout ça. J'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ou j'ai fait une faute ou est-ce que j'ai bien fait de venir? J'ai eu peur, j'ai vu que c'était immense. C'était trop grand pour moi, ça a rien à voir de ce que j'ai vécu. Je voyais le monde autrement que chez moi. Que nous, ça a rien à voir avec ici. On n'avait pas la liberté, on pouvait pas voir ce qu'on pouvait voir ici, on pouvait pas sortir, on n'avait pas le droit de s'habiller comme on veut, ni se maquiller, ni de faire comme ils font les jeunes ici. Hein. On était tout le temps enfermés, c'était ça et sans plus.
Alors pourquoi vous avez eu peur quand vous êtes arrivé à Paris ?
Il y avait trop de monde, je voyais pas mal de gens, je voyais des métros que j'ai jamais connus de métro, je voyais des taxis, je voyais des voitures, je voyais un monde, il y avait beaucoup de foule pour moi et j'ai eu peur. J'ai dit, est-ce que j'arriverai à m'en sortir ? Est-ce que je parlerai bien le français ? Il y a eu pas mal de choses. C'était dur. On me cherchait un sopal. J'ai souffert. Bon, j'ai trop souffert. Je voyais le paradis, moi. On parlait de Paris. On peut travailler comme on veut. On peut vivre comme on veut. On est libre. Le paradis est total. Une fois arrivé ici, j'ai compris. Hein.
Vous êtes retourné sur Paris ?
Ouais, maintenant je vais à Paris comme si je la connais comme ma poche, Paris maintenant. Et c'était sacré pour moi pour aller au Sacré-Cœur. C'était l'endroit le plus charmant pour moi de m'asseoir là-bas et regarder Paris entière au Sacré-Cœur. Je montais là-haut, je restais. Et il y avait des barreaux comme ça, on peut se pencher et voir tout Paris, surtout le soir. C'est lumineux, c'est beau, c'est immense. J'aimais voir les choses en hauteur. J'aimais bien Paris, c'était beau le soir, c'est...
Mais pourquoi j'aimais bien Paris ? Pourquoi vous parlez au passé ?
Parce que maintenant, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien parce que ça a changé, c'est plus comme avant.
Alors et vous, quand vous entendez Paris, la plus belle ville, la ville de l'amour ?
Je crois pas à ça, moi. J'entends dire ça, ça me donne envie de rigoler. Hein. On aurait dit que ces gens-là, ils sont venus directement, ils ont trouvé ça facilement. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Ça, c'est pour les gens qui ont les moyens de vivre, hein, qui viennent directement avec leur portefeuille bien craqué à bout. Et là, ils peuvent dire que c'est une ville de, où on peut vivre, on vit dans la gaieté, dans l'amour, dans la joie. Il faut connaître les gens qui vivent ici. Moi, je trouve que Paris, c'est très beau, mais c'est les gens qui sont méchants, c'est tout.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous parlez de
votre petite... Oh, ça va, tu vas pas me faire chier, là.
Ah ouais, j'ai pas de ticket, alors. Elle est pas belle, la vie.
Ah, je rentre comme ça.
Fini les cocktails, Malakoff, les idées de Marx. Je dors moi, tu rames, but, alors Chaumont, plutôt que faire le Valois. Le volontaire, pour l'école militaire, y'a mal donne. Crevé que donner sa sève à Babylone. Ça se passe ici, ça le fait Rino Placide. J'vois une belle porte quand Jacques le bon sergent garde sa bagnolette devant ma porte d'Orléans. Merdeur, un flic terne, sans odeur. Raconte un monceau de clichés que tout le monde connaît, Pasteur. On s'en va, Marcel, on a le Perrault, les billes, on Courcelle qui font les Yana. Les cartons Favin souhaitent la bienvenue à Montparnasse. Faut que j'une mes bourses, rue de la pompe. Mon piquet dans ta motte, mon galet dans tes trompes, ta châtelet. Pourri, sans la poissonnière, c'est de la chair en ton, c'est pas du Luxembourg, fille du calme. J'ai attrapé de l'exalement, c'est d'enfer. Je prends le chemin vert, au lieu de trocade, l'héros à blanc, j'inspire le bel air. Change de commerce, ton client court dans ta cité. Pour 20 grammes de hashish parmentier, pour chercher le A, pour comme un P, monter jusqu'aux Champs-Élysées, pour comme un tech. Sur la grande arche de la défonce, alors laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Des samboraï ont du plex, du quête de la rapée. Odéon joue le vice et Saint-Lazare. Alors laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Des samboraï ont du plex, du quête de la rapée. Odéon joue le vice et Saint-Lazare. Laisse-toi bercy.
Moi, étant née en France, dans les années 60 à peu près, on n'en dit pas trop. Donc la première fois où je suis partie à Paris, c'était avec mon futur époux, qui voulait me faire une sortie et qui m'avait emmenée sur les Champs-Élysées pour acheter la bague de fiançailles. Mais pour lui, c'était une surprise, me faire une surprise, mais moi... C'était déjà un mariage forcé, donc je pouvais pas être dans de bonnes conditions. Hein. Donc c'est plutôt un cauchemar qu'une surprise. Mais enfin, j'ai vu Paris pour la première fois à cette époque-là.
Et comment ça s'est passé? Vous pouvez me décrire ce qui vous reste là en mémoire?
Si je me rappelle bien, j'avais une petite robe d'été, parce que c'était en été. Mais j'ai pas été impressionnée par Paris. J'avais plutôt hâte de retourner sur le canal d'Aubervilliers, puisque c'est là que j'habitais. Je m'y trouvais mieux. J'avais pas l'impression d'être dans quelque chose de très beau, très nouveau. Tandis que Aubervilliers, c'était les copines d'école, c'était mon secteur, quoi. Ça m'a jamais tenté d'y retourner. Je vais un petit peu imaginer la chose. C'est comme quelqu'un qui a été tapé, qui a eu des violences. Ensuite, elle a peur de tous les hommes qui passent à côté d'elle, ou une fille qui a été violée. Ma première sortie sur Paris n'a pas été l'époque où j'aurais voulu y aller, avec la personne que je voulais. Dans mon cerveau, ça a fait un choc, et avec ma tante que j'aimais beaucoup, qui est morte dernièrement, je suis sûre que la sortie aurait été différente. Et c'est peut-être pour ça que même maintenant, je vais rarement sur Paris. Même maintenant. Pour moi, c'est pas le plus important de descendre sur Paris pour voir quoi. Je trouve que ça a rien de plus que Saint-Denis ou la Courneuve ou Aubervilliers. Paris me tente pas plus que ça, alors que je peux me permettre d'aller prendre un pot sur Paris. Mais ça me tente pas du tout.
flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard? Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards.
Voilà, merci à tous, merci à Dila Tebi, merci à toutes, hein, parce que c'est beaucoup des dames qui ont parlé, dames de la Courneuve. Technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Olivier Leroux. Le répondeur, c'est Christophe Imbert. Ça y est, ça remarche, le répondeur, on est revenu. Le numéro du répondeur, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37. C'est Koye Nguyen qui, comme d'hab, s'est occupé des musiques. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et Gina Lépine, il me reste quelques instants. Alors, les interlutants. Eh oui, ça aura été quand même cette année, pour nous en tout cas, l'année de Raffarin, nous voilà. Mais les interlutants ont produit d'autres chansons aussi ravissantes, dont voici un exemplaire qu'on vous avait passé, mais pas en entier. Là, on a le temps, c'est bon, on y va. La contredanse hongroise.
Ogna Pasqua, ogna Pasqua, Marcella. Ogna Pasqua, ogna Pasqua, ogna Pasqua, Marcella.
Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres. Le brushing et les dents, les grandes oreilles, l'œil et son bouclier, et vous le voilà. On l'adore chez tous les pandores, les CRS de l'huile et les caresses. On va rêver de tous les poulets. La matraque, la plage, mal et les menottes, au radiateur, on va bientôt déguster. Hey. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les claques. Aïe. Il est comme ça, notre Nicolas. Attention les gars, la Nicolas. Attention les filles, la Sarkozy. Attention les gars, la Nicolas. Attention les filles, la Sarkozy. À quoi pense-t-il? Aurait-il des ambitions? Mais que fait-il? Il s'approche de Matignon. À quoi rêve-t-il? Veut-il se faire désirer? Mais où va-t-il? Il s'approche de l'Élysée. Il nous vient tout droit d'Hongrie. Il est tout petit, Nicolas Sarkozy. Nosferatu du quai des orfèvres. Le brushing et les dents longues, grandes oreilles, le lien sans planqué, vous le voilà. Quand il voit un rhum, tout de suite il le dégomme. Quand il voit un beurre, il fait chauffer le charter. Quand il voit un black, on entend voler les grecs. Aïe, il est comme ça, notre Nicolas.
Dans tes papiers.
C'est Jérôme Bourdelon, il est devenu notre copain. Et c'est lui qui a écrit ces magnifiques paroles. Il est 18h sur Inter. On se retrouve demain à 17h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Agnès Bonfillon. Salut à tous.